L'âme qui s'engage dans un développement de conscience ou qui vient en contact avec des énergies qui travaillent dans cette direction-là peut difficilement au début se dégager des habitudes de sa conscience antérieure. Parce que ça peut être intéressant, il y a beaucoup de choses à étudier, il y a beaucoup de choses à comprendre, il y a beaucoup de choses à voir. Puis ça, c'est un mécanisme psychologique qui est normal. Fait qu'on peut pas vous blâmer pour ça. Par contre, si on veut vous aider, on est obligé de vous dire, bon, ben, c'est réellement sans importance. Pourquoi? Parce que l'énergie du mental, autrement dit, l'énergie du mental supérieur qui se situe au-dessus de la réflexion ou au-delà de la réflexion, cette énergie-là doit être de plus en plus utilisée par les forces du mental et de moins en moins utilisée par les forces de l'ego, afin de permettre la création d'un canal et la descente de l'énergie de haut en bas. Si l'ego s'investit trop d'une curiosité normale, qui fait partie de ses appétits intellectuels normaux, éventuellement, il va brouiller le canal et il va empêcher qu'une vibration plus subtile passe pour finir, pour lui amener éventuellement sa propre lumière et pour lui amener l'information dont il a de besoin, lui, en tant qu'être. C'est pour ça que la curiosité, c'est une des choses qui, au cours de l'évolution, diminue, un petit peu comme les mémoires intellectuelles diminuent. Un homme qui évolue en conscience mentale s'aperçoit au cours des années que sa mémoire a diminué. Ça ne veut pas dire que sa mémoire disparaît, mais sa mémoire est utilisée par son esprit pour le travail, pour l'expression de sa conscience, et non pas pour le renforcement des aspects psychologiques de l'ego. Et vous verrez qu'au cours de l'évolution, vous perdrez un petit peu de mémoire. Il y a une petite perte de mémoire lentement qui se fait graduellement. Ça n'est pas au point où vous ne pourrez plus travailler, mais au point où vous aurez conscience qu'il y a une perte de mémoire. Et cette perte de mémoire-là fait partie des mêmes mouvements de la conscience que ceux qui touchent la curiosité. La curiosité, si on la regarde d'un point de vue intellectuel, elle est bonne. Si on la regarde d'un point de vue psychique, elle devient éventuellement nuisible parce que on a l'impression, en tant qu'ego, de trouver de la valeur dans une question quelconque, alors que cette valeur-là est purement subjective. Ça, c'est une habitude, c'est presque même, chez certains individus, ça peut être même une déformation. Parce qu'à partir du moment où la conscience s'élève à un autre niveau, ou que l'homme en arrive à être en contact avec une nouvelle fenêtre, et qu'il a là l'impression, finalement, d'avoir accès à des réponses, les réponses auxquelles il a accès sont autres que celles qu'il veut avoir. Fait que regardez bien ça, le phénomène de curiosité, parce qu'au cours des années, vous allez en arriver à... Elle va, avec le temps, s'éteindre. Elle va se raréfier, et un jour, vous en aurez plus. Parce que ce que l'homme aura besoin au cours de son évolution, c'est une grande, grande, grande paix d'esprit. Et la paix d'esprit n'existe pas dans la recherche constante de la curiosité ou du développement constant de la curiosité, mais du retrait de l'ego par rapport aux formes qui font partie des structures mentales de la mémoire de sa race. C'est évident que il va venir un temps où, bon, les gens vous poseront des questions, puis là, vous pourrez répondre à ces questions-là. Mais cette curiosité-là ou ces réponses, ces questions-là, ne seront pas les vôtres. Elles seront pour les gens autour de vous. Ça fera partie de votre discours, ça. Mais en tant qu'individu, vous n'aurez plus d'intérêt à des formes, à ces formes mentales-là, parce que il n'y aura plus de vie dans ces formes mentales-là. Moi, savoir à quoi sert une éclipse, ça change quoi dans ma vie, ça change absolument rien. Si on me le demande, là, je peux répondre, mais je vais le faire pour vous. Mais si je pense que c'est mieux de ne pas vous répondre, je ne vous répondrai pas. Parce que moi, en tant que personne, ça change... La question ne m'allume pas. Si je vais par en dedans et je pose une question concernant l'éclipse, on va me répondre selon ma propre conscience. Et on peut me dire très brièvement, c'est sans importance. Et la raison pour ça, c'est parce que la curiosité, ça s'astralise. Et d'ailleurs, la curiosité ou trou de curiosité, c'est une forme astrale de l'intelligence. Parce que la curiosité fait partie de l'astralité de la conscience mentale de l'âme. Dans le mental intégral, la curiosité n'existe pas. Sinon, on se brûlerait l'esprit, on se brûlerait le cerveau, on deviendrait dingue. Fait que là, qu'est-ce que l'homme conscient recherche? Mais c'est le calme de son esprit. Il a essayé d'être en contact avec les plaies. Déjà, ça, c'est déjà un job. À un moment donné, tu ne veux plus rien savoir. C'est pour ça qu'il disait, il y a 20 ans, je disais, il n'y a rien à comprendre. Je me rappelle au début, il y a 20 ans, quand je disais, en 78, il n'y a rien à comprendre. Les gens venaient me parler, ils me disaient, comment ça se fait? Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a rien à comprendre. Tout est à comprendre. Je connais bien des gens aujourd'hui que vous pouvez leur demander la même question, puis on vous dirait, c'est vrai, il n'y a rien à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas accès à savoir, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas accès à comprendre, ça veut dire qu'il n'y a rien à comprendre dans le sens de l'intellect qui cherche toujours à comprendre. La recherche philosophique de l'ego. On a-tu perdu des années et des siècles à vouloir comprendre? À partir de Socrate, on veut comprendre. Puis on arrive à la fin du 20e siècle et on ne comprend rien encore. Il n'y a rien à comprendre. Le fameux casse-tête, effectivement. Mais ça, il faut le savoir par soi-même. Il ne faut pas le douter. Parce que c'est pas facile pour un homme de prendre conscience qu'il n'y a rien à comprendre. Mais je peux vous dire que c'est pas long qu'on en arrive à cette conclusion-là. Surtout quand on a contact télépathique avec les plans, puis qu'on nous l'imprime de jour après jour, qu'il n'y a rien à comprendre. Puis on leur dit, mais pourquoi s'il n'y a rien à comprendre? Il y a tellement de choses à comprendre. Puis on vous dit, il n'y a rien à comprendre. Tout est su, tout est là. Quand tu en auras besoin, ça sera là. Tout de même, c'est comme ça qu'on nous répond. Puis c'est normal, parce que supporter un afflux de curiosité intellectuelle à partir d'un plan mental extrêmement créatif, mais l'homme devient fou, l'homme il se repose plus, il n'y a plus de repos de l'esprit. Ça fait partie de la recherche, effectivement. Puis la recherche, mais ça a été le mot de passe de l'évolution. La recherche de la pierre philosophale, la recherche de ci, la recherche de ça, on passe notre temps à rechercher. On a été pendant des siècles prisonniers du Minotaure. Il va falloir que l'homme retourne ça de bord. C'est ça qui est difficile parce que ça nous est pas assez. Il faut qu'on le découvre par soi-même. Ça fait partie de la domination de l'astral. Quand vous me dites quelque chose qui est réel, je suis obligé de dire c'est ça. Que je sois Bernard à Montréal, pas Bernard à Montréal, quand vous me dites quelque chose qui est réel, je suis obligé de dire, c'est ça. Ça fait partie de la domination de l'astral. À vouloir nous faire vaincre, à quelque chose à comprendre. Parce qu'à partir, tant qu'il y a des forces astrales qui peuvent nous faire croire quelque chose à comprendre, on a tendance à vouloir les suivre, à s'assujettir à elles, parce que les forces de l'âme ont besoin des assises, c'est-à-dire que les forces de l'âme ont besoin d'être mises en vibration pour que l'ego, lui, en tant qu'aspect ou en tant qu'aspect de son principe universel, puisse être rassasié. L'ego va être rassasié. Le phénomène d'être rassasié, c'est un phénomène astral. C'est comme les gens, là, 2, 3, 4, 5, 600 ans, qui voulaient être proche du Christ, qui voulaient être mariés au Christ, qui voulaient... c'est abominable, ces expériences-là. Fait que ça, c'est l'astral spirituel, puis c'est très fort. Si jamais vous avez une chance d'aller en astral, de voir sur les plans spirituels la structure mentale des religions, vous allez être pas mal époustouflé. Quand vous verrez comment ça fonctionne, les religions, qui c'est qui rend les religions, qui c'est qui crée les religions, pourquoi c'est que les religions existent sur la Terre, n'oubliez pas que la Terre, c'est une planète expérimentale. Hein? Une planète expérimentale, ça veut dire que l'ego qui est en incarnation, ou l'âme qui est en incarnation, n'a pas le pouvoir, pendant l'évolution, de s'abstenir du contact psychologique avec la mémoire de sa race. C'est fort, ça. Elle n'a pas le pouvoir. Un ego qui est forcé de s'abstenir du contact psychologique avec la mémoire de la race, techniquement, il craque. Prenez un homme, mettez-le dans une prison tout seul, sans contact extérieur, il va craquer. Mais prenez un homme conscient, mettez-le dans une prison tout seul, sans contact avec les morts de la race, il va sortir de son corps et il va se promener en ville. Une différence? Si je donne une autre définition de la mémoire sur la, à partir du plan mental, regardez ce qu'ils disent. Ils disent que la mémoire, c'est une structure mentale de l'ego qui permet à l'homme de perdre conscience. Quand vous êtes dans la mémoire, dans le phénomène de la mémoire, même si la mémoire est utile au niveau structurel, il y a une perte de conscience. Dans la conscience, la mémoire n'existe pas. Dans la conscience, c'est une pulsation de lumière qui fonctionne, qui est créative. Elle fait ce qu'elle veut, la lumière. Tu t'en vas où tu t'en vas où est-ce que ça en va. Elle fait son propre chemin. Alors que dans la mémoire, l'ego, il est obligé, temporairement, même si c'est une fraction de seconde, de perdre la conscience. La mémoire fait partie des forces de domination. C'est à travers la mémoire que les forces de domination ont établi sur l'homme leur régence pendant des millénaires. Fait que vous soyez chinois, vous avez une grande mémoire chinoise. Si vous êtes allemand, vous avez une grande mémoire allemande. Si vous êtes oriental ou hindou ou arabe, vous avez toute une grande mémoire qui fait partie de la mémoire de la race. Et c'est très difficile pour un ego, en évolution de conscience, de se séparer de la mémoire de la race parce que son identité fictive est mise en doute. Alors, quand on parle de l'évolution, c'est ça l'évolution. Quand on parle de l'évolution, c'est le renversement de cette condition-là, mais ça se fera sur une base totalement individuelle. Ça ne peut pas se faire sur une base collective. Parce qu'à partir du moment où vous utilisez de la connaissance sur une base collective, vous formez techniquement une religion. Donc, pour empêcher la formation d'une religion, ou d'une secte, ou d'une collectivité, ou de la systématisation d'une pensée qu'on appelle la philosophie, vous êtes obligé d'enlever, ou d'amener l'homme à mettre de côté sa mémoire. Donc, mettre de côté sa mémoire, ça veut dire quoi? Mettre de côté ce que vous y avez enseigné. Ça fait que c'est très important pour un homme qui, techniquement, enseigne ou parle, de le faire de manière créative afin de rendre toujours l'ego libre de la mémoire, donc de l'enseignement qu'il donne. Parce que si vous ne rendez pas l'ego libre de l'enseignement que vous donnez, vous allez créer des paramètres de vérité, vous allez devenir un maître, et automatiquement, l'ego ne pourra jamais passer de l'évolution à l'évolution. Fait que c'est subtil, mais il faut le savoir. Puis il faut le savoir, mais pour le savoir, mais il faut avoir passé les différentes étapes qui nous mènent finalement à réaliser que se rendre libre soi-même, ça implique rendre l'homme libre. Si vous ne rendez pas l'homme libre dans votre processus, dans votre relation avec l'homme, vous n'êtes pas libre. Quelle que soit la couleur, la qualité ou de votre enseignement. Mais si vous êtes libre, vous serez obligé, de par le fait d'être libre, de rendre l'homme libre, donc de sortir de la mémoire de sa race. Et votre enseignement qui fait partie de la mémoire de la race temporairement, même si c'est d'une race plus élevée, vous serez obligé de le rendre libre même de cette mémoire-là. Et comment vous allez le faire? En lui disant « ne pas croire ». En lui disant « il n'y a pas de vérité dans ce que je dis ». C'est simplement de la réalité. Dans la réalité, l'homme est libre de vous suivre ou de ne pas vous suivre. Pourquoi? Parce qu'il est libre de savoir comme vous ce que vous savez. Si un homme ne peut pas savoir comme vous ce que vous savez, il est obligé d'utiliser la vérité pour se joindre à vous. En faisant ça, il utilise encore le mécanisme de la mémoire de la race. Donc, il appartient encore à un processus plus à court ou à long terme où il se formera une secte ou une religion ou un système de philosophie ou une idéologie quelconque. Donc, il sera encore dans l'évolution et l'homme ne sera encore, quelque part, dominé dans sa conscience. C'est subtil. La mémoire, c'est anti-être-té parce que la mémoire empêche l'ego de s'auto-révéler. Ça empêche l'ego de s'auto-révéler? Mais la mémoire pendant l'évolution a toujours été utilisée par le pouvoir pour donner à l'homme un aperçu psychologique de la vérité. Alors que dans l'évolution, la mémoire sera retirée à l'homme si elle n'est pas retirée, de sa conscience psychologique, elle sera retirée de sa conscience psychique parce que le contact télépathique avec les plaies met totalement de côté la mémoire humaine. C'est ça le savoir. Qu'est-ce que c'est le savoir? C'est le mouvement d'une une énergie créative sans la fondation de la mémoire de l'humanité. Qu'est-ce que c'est la connaissance? C'est la mémoire de l'humanité élevée à un niveau suffisamment sanctionné pour apparaître comme étant véritablement utile. Donc c'est très très différent la connaissance de la mémoire puis le savoir. Donc un homme peut avoir une connaissance limitée, mais il va avoir un savoir illimité. Mais quand un homme est dans un savoir illimité, il n'y a aucune connaissance de son savoir. Comprenez? C'est intéressant, ça. C'est? OK. Alors qu'un homme qui a beaucoup de connaissances, il y a une mesure de sa connaissance. Allez le voir et vous verrez l'orgueil qui est la mesure de sa connaissance. Bon, OK. Puis il y a beaucoup plus de plaisir dans la conscience humaine de ne pas avoir de mesure de son savoir, parce qu'à ce moment-là, ben, c'est comme approcher le robinet. Tu ouvres la chanteleur, puis il coule de l'eau. Il n'y a jamais de tarissement d'eau. Tu es toujours en état d'auto-révélation. Tu es toujours en état de découverte. Tu es toujours en état d'aller plus loin dans le savoir. Bon, c'est ça qui rend ton travail intéressant. Ce qui rend ton travail intéressant, c'est de savoir que tu peux tout savoir. Il est là le plaisir que l'homme, que la conscience mentale donne à l'homme, le fait de savoir qu'il a toujours accès au savoir. Mais quelle est la quantité, quelle est la mesure de ce savoir-là? Ben, il ne sait pas. Donc, c'est très différent de l'intellect qui peut mesurer ce qu'il sait. En citant le nombre d'œuvres qui ont été lues, ou en citant le nombre de doctorats qui ont été développés, ou acquis, ainsi de suite. Alors, si on retourne au processus d'auto-révélation, autrement dit, au processus de développement de la conscience critique de l'homme vers un infini quelconque, on s'aperçoit que l'auto-révélation, c'est réellement la maximalisation chez l'ego planétaire de sa conscience universelle. Et plus le temps change, plus l'ego s'aperçoit que dans un temps, il peut dire certaines choses, dans un autre temps, il peut dire autre chose. Moi, je peux parler aujourd'hui parce qu'on est en 99. En l'an 2000, je pourrais aller un petit peu plus loin. En l'an 2002, je pourrais aller un petit peu plus loin. Jusqu'en 2023, là, ça sera fini. À ce moment-là, au fur et à mesure où tu avances, ce que tu sais sert pour un certain temps. Quand tu vas dans un autre temps, ta vibration change, le travail sur tes corps subtils a été encore plus développé, il y a un savoir plus subtil, parce que la profondeur du savoir, aussi l'infinitisation du savoir est simplement basée sur les nuances psychiques de l'ego. Quelle différence qu'il y a entre notre capacité de définir Dieu aujourd'hui, puis notre capacité de définir Dieu demain, c'est simplement dans notre capacité d'interpréter la vibration. Si j'allais au tableau puis je donnais des définitions de ce qu'on peut donner de Dieu, par exemple, à une conscience sociale comme celle qu'on a dans la salle, bon, ce que je donnerais aujourd'hui serait différent de ce que je donnerais dans 6 mois, serait différent de ce que je donnerais dans 2 ans, parce qu'au fur et à mesure où j'avance, ma propre conscience change. Ma propre conscience devient plus subtile. Mon corps mental devient plus subtil. Donc, je deviendrai de plus en plus capable d'ajuster mon mental à la vibration qui passe, parce que ça fait partie de ma relation avec le monde. Mais c'est ma relation avec le monde qui détermine ce que je veux faire, pas ce que je veux savoir de ce qu'on appelle Dieu. Parce que moi, je m'en fous de ce que Dieu est, ou de ce que Dieu n'est pas, parce que je ne suis pas attaché à la vérité de ça. Par contre, si vous me posez une question en 98 ou en 99, je vais vous donner une définition qui fait partie de la relation entre mon mental et le monde. Et en 2000, 2003, 2004, 2005, je vous en donnerai un autre, parce que dans 2003, 2004, 2005, moi aussi, j'aurais développé comme l'homme aurait développé. Donc, il y a une relation chronologique et une relation extrêmement étroite entre la vibration d'un homme qui parle et d'un homme qui reçoit la parole. Et ça permet une évolution graduelle qui est proportionnelle à un plan qui est universel et qui ne fait pas partie des droits d'auteur de l'homme sur la Terre. On n'est pas responsable sur la terre de ce que l'homme doit savoir. On devient des canaux sur la terre de ce que l'homme peut savoir. OK? Fait que la curiosité, là, dans le cul, c'est ça. Puis à comprendre, pour vous autres, c'est très important. C'est très important. Très important. Comment se prendrait des exemples, encore là? Pas grave, mais c'est très important. Vous savez, un acteur américain, comment est-ce qu'il s'appelle? Brad Pitt. Vous ressemblez à Brad Pitt. Ouais. Un petit peu, vous avez un petit peu de Brad Pitt. Bon, je continue. Donc, l'autodétermination, c'est un processus créatif qui est extrêmement nuancé, qui est extrêmement subtil. Et il est proportionnel au déplacement de l'ego. Plus l'ego se déplace, autrement dit, moins l'ego est égocentrique, plus il est centrique, moins l'ego est réfléchi dans sa conscience, plus il est émanant dans sa conscience, plus il va pouvoir lire les nuances de la vibration et finalement en arriver à développer sur le plan purement didactique une science qui fait partie de la matérialisation de la lumière, ce qu'on appelle le savoir. Mais si l'ego est trop dense, il ne pourra pas lire entre les lignes. Parce que les femmes auxquelles il est habitué, les femmes qui l'utilisent en général pour se configurer une personnalité, ne pourront pas laisser passer cette vibration-là. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'un homme qui pense trop ne peut pas recevoir l'information. Un homme qui pense moins va recevoir plus d'informations, et un homme qui pense pas pantoute va recevoir totalement va être capable totalement de lire la vibration. Quand vous lisez la vibration, à ce moment-là, vous êtes suffisamment ajusté au mental pour quasiment accéder à n'importe quoi dont vous avez besoin pour créer sur le plan matériel une forme quelconque qui peut servir dans votre domaine, que vous soyez médecin, architecte, plombier, instructeur, quoi que ce soit, éducateur, quoi que ce soit. Donc, c'est l'affaire de lecture de la vibration. Et la lecture de la vibration, elle est proportionnelle au déplacement de l'ego. Donc, plus vous êtes intellectuel, plus on est intellectuel, plus l'intellect est là, plus la mémoire de la race est là, plus c'est difficile pour nous, en tant qu'être, de lire la vibration. Puis, on a tous accès à la vibration. Le savoir, ça appartient à tout le monde. Ça appartient pas à un homme, ça. Il y a des hommes qui ont plus de facilité que d'autres à la lire, la vibration. C'est la seule différence. Mais techniquement, la vibration, elle appartient à tout le monde. Tout le monde. Des fois, on rencontre des gens très intelligents sur le plan psychologique, sur le plan du mental structuré, sur le plan de l'intellect. Mais au niveau intuitif, au niveau de la lecture des vibrations, ils sont totalement incompétents. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas bénéficier de ce qu'ils savent. L'homme sait énormément de choses. Il a accès à énormément de choses. Mais il est obligé de vivre un déplacement de l'ego pour accéder à cette information-là. C'est pour ça que, dans un sens, la vérité, c'est très dangereux. La croyance, c'est anathème à la conscience. Anathème. Je regarde des programmes à la télévision, puis je vois des grands mouvements de foule, comme ce qui s'est produit en Chine, ce qui s'est produit en Russie, ce qui s'est produit durant la Renaissance, en Europe, ainsi de suite. Puis, les mouvements qui font partie du développement de la civilisation, ce sont une chose. Mais les mouvements qui font partie du développement de l'homme en tant qu'individu, c'est un autre paire de manches. Et la loi de transformation est totalement différente. L'homme va se transformer d'une manière totalement étrangère à sa préconception psychologique. Ce que vous pensez aujourd'hui, demain, vous verrez que c'est pas ça. Vous regarderez dans 10 ans, vous regarderez en arrière, vous direz, ouais, dans ce temps-là, je pensais ça, aujourd'hui, je vois d'autres choses. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, oh, je suis allé en Afrique, j'ai fait l'ésotérisme en France, j'ai rencontré des maîtres un peu partout dans le monde, puis j'arrive au bout de 20-25 ans, puis je suis au même point où j'étais au début. Ça fait partie de la recherche individuelle. J'ai une femme qui pleurait à chaudes larmes à Saint-Sauveur. Parce qu'elle a fait le tour du monde, elle a fait l'Afrique, elle a fait tous les groupes, elle a fait... elle a mis beaucoup d'énergie à la recherche pour finalement en arriver à réaliser que il n'y a rien à l'extérieur de soi, que la recherche, ça fait simplement partie de la recherche de l'identité. C'est un gros choc. Les membres d'un Rosecroix en France, un membre élevé d'un Rosecroix en France, me dit, j'ai travaillé 72 ans à la recherche pour en arriver finalement à réaliser qu'il n'y a rien à comprendre. J'ai vu des hommes pleurer, des femmes pleurer à cause de ça. Fait qu'il est temps qu'on commence à comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas accès à savoir. Ça veut dire qu'on arrive finalement à vivre un déplacement de l'ego suffisant pour réaliser que ce qu'on appelle l'intelligence ou la conscience créatrice, ça fait partie d'un mental dont les architectures sont très, très différentes de celles qui ont été nécessaires pour le développement de la conscience de la race. Comprendre ça, c'est déjà un grand, grand développement pour l'homme. Puis ça nous amène éventuellement à une grande paix intérieure. Sinon, on passe notre temps à courir, puis à rechercher, puis à rechercher, puis à lire, puis à lire. Qu'on lise pour notre plaisir personnel, c'est une chose. Qu'on lise pour voir ce qu'il dit, c'est une chose. Mais qu'on lise pour quoi, c'est une autre chose. C'est un phénomène déguisage, et quand l'homme deviendra un géant, il s'apercevra qu'il y a un autre géant qui pousse. Quand vous croirez que vous êtes un géant, vous verrez qu'il y a un autre géant qui pousse. Puis quand le géant qui pousse croira qu'il est géant, il verra qu'il y a un autre géant qui pousse. Et la conscience supramentale sur la Terre, c'est du gigantisme. C'est un processus de développement à long terme. C'est un processus qui va à l'infinitisation de la conscience. C'est un modèle de conscience qui ne fait pas partie de l'expérience psychologique de l'ego sur la Terre, ça ne fait pas partie de la conscience de la race, ça ne fait pas partie de la conscience des nations, ça fait partie du développement de la conscience de l'individu, de la fusion entre l'esprit et l'âme, et du retour de l'homme à sa source. Puis on parle du retour de l'homme à sa source, on ne parle pas dans un sens spirituel indien du terme, là. Le retour de l'homme à sa source, ça veut dire la capacité de l'homme de parler, d'avoir ou de s'entretenir télépathiquement avec le plan mental, de manière à ce qu'il y ait parfait équilibre entre les plans invisibles et le plan matériel. Sinon, c'est encore de la domination. Si vous n'êtes pas capable de parler avec votre double et d'établir avec votre double une corrélation psychologique parfaite et de pouvoir interpréter sa relation avec lui, comprendre sa relation avec lui, voir où il en est dans son évolution avec vous, à ce moment-là, ben, votre double devient pour vous un esprit supérieur, et en devenant un esprit supérieur, vous devenez un esprit inférieur. En devenant un esprit inférieur, vous n'avez pas le pouvoir de retarder retarder son émanation. Et si vous n'êtes pas capable de retarder l'émanation d'un esprit, vous êtes envoûté par l'esprit, vous n'êtes pas libre de l'esprit, et vous êtes automatiquement en initiation. C'est ça une initiation d'ailleurs. L'initiation, c'est être assujetti au pouvoir vibratoire d'un esprit qui vous magnétise pendant un certain temps, parce qu'il a sur vous ascendance. Mais ascendance à quel niveau? Ascendance au niveau de la croyance. Quand vous serez plus capable de croire, pas dans le sens psychologique du terme, mais parce que vous aurez plus l'énergie au niveau de l'ego pour croire, vous ne pourrez plus traiter avec votre esprit comme vous avez traité pendant l'évolution. Vous serez libre d'entretenir avec lui un dialogue extrêmement intelligent. Et si l'esprit doit être corrigé dans son travail avec vous, vous aurez le pouvoir sur la terre de le faire. Et c'est la première fois que l'homme pourra corriger le monde des esprits et s'introduire dans le monde des esprits et commencer finalement à mettre de l'ordre dans le monde des esprits qui est extrêmement désordonné. Et si vous saviez aujourd'hui jusqu'à quel point le monde des esprits est désordonné, vous seriez totalement époustouflé. Ces êtres-là ont besoin beaucoup plus de guidance que vous pensez, et l'impression qu'on a que les esprits qui sont sur le plan astral ou qui sont sur le plan mental sont des esprits supérieurs, c'est une impression qui relève du fait que nous, sur le plan matériel, nous vivons l'incarcération de l'âme. Et puisque nous vivons l'incarcération de l'âme, c'est la raison pour laquelle nous vivons l'incarcération de l'âme, c'est parce qu'il n'y a pas eu de fusion entre notre esprit et l'âme, c'est-à-dire que nous n'avons pas été capables encore, sur le plan de l'ego, de nous libérer de la domination de l'esprit à travers les forces de l'âme, donc des forces astrales, donc de la programmation qui fait partie de notre incarnation sur le plan matériel. Mais quand ça sera fait, l'homme deviendra très intelligent et finalement, la recherche fondamentale de l'ego sur le plan philosophique, psychologique, existentiel et psychique sera établie et les forces occultes n'auront plus sur la Terre de pouvoir sur l'homme. C'est évident qu'à ce point-là, les religions n'existeront plus pour l'individu. Elles existeront pour les masses, mais elles n'existeront plus pour l'individu, parce que l'homme aura le pouvoir, à ce moment-là, de lire parfaitement la vibration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la vibration? Lire la vibration, ça veut dire savoir sans aucun obstacle. C'est ça que ça veut dire? Savoir sans aucun obstacle. Qu'est-ce qui peut créer un obstacle dans le savoir? Ce sont les forces astrales. Qu'est-ce qui peut créer un obstacle dans le savoir? C'est la puissance vibratoire de votre double. Bon, le contact vibratoire avec le double, le développement de la relation entre l'homme et le double, l'horizontalisation du rapport entre l'homme, entre le mortel et le double, ça fait partie de la conversion des nouvelles énergies, ça fait partie de la fusion, ça fait partie de l'immortalisation de la conscience humaine. Quand je parle d'immortalisation de la conscience humaine, je dis la morontialisation de la conscience de l'homme après la mort. Une fois que ça s'est établi sur le plan matériel, c'est établi dans les états et les forces occultes, c'est-à-dire les forces qui font la gestion des archives dans le monde mental, sont obligées de travailler en étroite relation avec l'homme, et c'est là que l'homme commencera finalement à recouvrir un peu de pouvoir sur la Terre, un peu de pouvoir au niveau des forces de vie, un peu de pouvoir au niveau des forces du mental, un peu de pouvoir au niveau des forces astrales. C'est le rêve changera, le mental changera, les architectures du mental deviendront de plus en plus fluides, de plus en plus limpides, et l'homme en arrivera finalement à savoir et à réaliser qu'il est réellement un être de lumière. Pas simplement qu'on pense qu'on est des êtres de lumière, mais l'homme deviendra un être de lumière. Mais tu deviens un être de lumière dans le fait, dans l'action, dans la manifestation. Tu ne deviens pas un être de lumière parce que tu veux en être un. Tu ne peux pas devenir un maringouin parce que tu veux être un maringouin. Il faut que tu piques. Oui. Ça dépend de votre sensibilité, ça dépend de votre propre évolution, ça dépend de votre vibration. Il y a des êtres qui sont dans des milieux humains extrêmement défavorisés et qui réussissent finalement à se libérer de la mémoire de la race. Seulement, c'est plus difficile. Par contre, tout est faisable. Mais ça dépend toujours de votre vibration. C'est personnel à chacun de vous, ça. Il y a des êtres qui iront très loin dans l'évolution d'une conscience mentale. Il y a des êtres qui iront très peu loin. Tout dépend de l'âme, tout dépend de la force intérieure de l'individu. C'est très personnel à chacun, ça. Je peux vous dire en général que c'est plus difficile pour un être qui est très incarcéré dans la mémoire de la race de s'en libérer. Par contre, il y a des êtres qui le font, j'en connais, moi. Je connais des êtres qui viennent des Indes, je connais des êtres qui viennent des pays islamiques, je connais des êtres qui viennent de partout et qui ont été extrêmement défavorisés sur le plan racial, mais qui, sur le plan psychique, sont très avancés. Et ce sont les forces de l'âme, finalement, qui se sont mises en branle. Et une fois que les forces de l'âme se mettent en branle avec une science qui est suffisamment à notre portée aujourd'hui, c'est pas loin que l'esprit commence à se manifester et que l'âme commence finalement à se réaliser. Et quand l'âme se réalise, à ce moment-là, c'est très facile pour l'ego de travailler avec le plan mental, de travailler en télépathie, de sortir de la pensée réfléchie et de finalement réaliser que l'homme sait beaucoup de choses, on sait beaucoup de choses, on a accès à beaucoup de choses. Et c'est universel. Ça fait toujours partie de l'expérience, son expérience d'âme. J'ai rencontré un homme il y a plusieurs années qui me disait, bon, mais moi je travaille pour le gouvernement américain, on travaille dans les systèmes nucléaires, et ainsi de suite. Puis, j'avais fait un test avec lui. J'avais dit, parce que c'était un type très, très sensible, j'avais dit, va dans ta tête et parle comme si tu parlais avec quelqu'un. J'avais dit, pourquoi tu travailles en science? Pourquoi tu travailles dans le nucléaire? Et on lui avait répondu dans sa tête, pour le patriotisme. Pour le patriotisme. Je lui avais demandé, est-ce que c'est une forme valable? Puis il m'avait dit, ben, d'après moi, oui, puis d'après moi, non. J'avais dit, retourne dans ta tête. Puis, donc, il avait demandé dans sa tête si c'était valable de travailler en sciences nucléaires simplement pour le patriotisme. Puis on lui avait répondu qu'on ne voulait pas en parler. J'ai dit, à partir du moment où on ne veut pas vous donner de réponse en ce qui concerne votre plan de vie, vous devez trouver la réponse par vous-même. Et aujourd'hui, cet homme-là ne travaille plus où il travaillait. Il ne travaille plus dans ce domaine-là. Et il est très, très bien à sa peau. Donc, ça dépend des forces de l'âme, ça dépend de l'individu. Vous ne pouvez pas empêcher un ego de travailler dans un certain domaine quand il est inconscient, parce que quand on est inconscient, on n'a pas de rapport, on n'a pas de mesure. On n'a pas de force intérieure, on n'a pas de puissance, on n'a pas de critique absolue, on vit par rapport à la mémoire de la race. Donc vous ne pouvez pas blâmer une personne, quelques personnes, quelle que soit son origine raciale, mais il y a des êtres sur le plan matériel qui sont suffisamment sensibles intérieurement pour réaliser qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ils sont pas parfaitement heureux là-dedans. Ça les dérange de travailler sur les armements nucléaires, même s'ils sont très intelligents au niveau intellectuel. Puis éventuellement, mais souvent, ces êtres-là brisent de ces confins-là, puis ils sont automatiquement obligés de vivre une sorte de transmutation qui peut durer des années. Et éventuellement, mais ils se remettent sur leurs pieds et en arrivent finalement à découvrir une orientation qui fait tous partie de leur réalité. Donc, les forces culturelles sont très grandes. Qu'est-ce que vous voulez? On vit dans un médium. Hein? Très grand. Moi, je regarde simplement ce que j'ai dû vivre quand j'ai expérimenté la fusion 69. Le départ d'une carrière purement scientifique, intellectuelle, vers un mouvement d'esprit totalement libre. Et ça a été très dur pour mon ego, très dur pour l'ego. Tu te poses bien des questions. Et au cours des années, tu en arrives à intégrer ça. C'est plus facile pour un être qui est moins structuré au niveau mental, mais pour un être qui a une bonne éducation, pour un juge, un avocat, un scientifique, c'est plus difficile. Parce que ça te force à remettre en question des structures qui sont très valides, très valables. Donc, si l'âme passe à travers ça, si l'âme est en vibration, si l'être est sensible à ça, ben, éventuellement, il en arrive à pouvoir se décupler de ça en se déculpabilisant de ça. Parce que la culpabilité, c'est très grave, hein? C'est très grand, c'est très puissant, c'est très astral. Je pourrais vous dire que sur le plan astral, on se sert de la culpabilité comme instrument fondamental pour la déstabilisation des émotions de l'homme. Aussitôt que vous vivez de la culpabilité, votre corps émotionnel est déstabilisé. Puis c'est une chose dont on parle pas, culpabilité. On accepte ça comme ça fait partie de la vie, la culpabilité. Pourtant, la culpabilité, c'est une des forces utilisées par toutes les formes de domination contre l'homme. La culpabilité du simple communiste contre le régime socialiste, la culpabilité du pauvre chinois contre les dictées de Mao Tse-tung avec son petit livre rouge, puis la révolution culturelle en Chine, la culpabilité du bon catholique contre les prononciamentos de l'Église. C'est abominable, la culpabilité. Puis c'est une chose qu'on n'a pas étudiée, c'est une chose qui fait partie des structures mentales de notre époque ou des anciennes époques, mais de la regarder d'en faire une autopsie, d'en faire une étude profonde, un discours profond, on ne l'a jamais fait. C'est essentiel. Un homme ne peut pas grandir la conscience sans avoir réalisé la bête noire de culpabilité. Culpabilité par rapport à les rapports entre lui et sa famille. Culpabilité en regardant les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Combien de Juifs ont fini dans les fours crématoires parce qu'ils avaient la culpabilité de ne pas laisser leur groupe? Il y en a qui ont été libres de cette culpabilité-là, sont allés à New York, eux autres, ils ont fonctionné, puis aujourd'hui, mais c'est eux autres qui dominent. Donc la culpabilité, c'est très, très grave, c'est très dangereux, et les pouvoirs ont toujours utilisé la culpabilité pour maintenir l'homme en liesse. C'est très grave, la culpabilité. Pour moi, c'est le plus grand des poisons, la culpabilité. Le plus grand des poisons. Et la croyance, c'est le plus grand des échafaudages. Des échafauds, pardon. Il y a des choses qui sont totalement anathèmes à la conscience. La croyance, la culpabilité. Les autres, ensuite, ça s'ajuste. Mais ces deux-là, l'homme sera obligé de passer à travers ça. Un homme conscient ne peut pas en arriver au constat de l'illusion de la culpabilité et au constat de l'illusion de la croyance. Impossible. Vous pouvez étudier les éclipses toute votre vie, si vous voulez, mais si vous n'en arrivez pas un jour à traiter directement avec la culpabilité et la croyance, vous ne pourrez jamais vous libérer de l'évolution, des forces de l'évolution. Pourquoi? Parce que la mémoire de la race, elle est maître. chez un être qui n'a pas de conscience critique absolue. Un homme qui a une critique conscience absolue est plus trop nain. Qu'il fasse face à n'importe quelle mémoire, qu'on lui dise n'importe quoi, il pourra toujours lire entre les lignes. Mais un homme qui n'a pas de critique absolue parce qu'il n'est pas suffisamment libre de la croyance qui mène à la vérité ou qui n'est pas suffisamment libre de la culpabilité qui le dissocie des pouvoirs, ne peut jamais en arriver à se libérer du connu. S'il ne se libère pas du connu, il ne peut pas savoir. S'il ne peut pas savoir, il ne peut pas être libre. S'il ne peut pas être libre, il est automatiquement dans l'involution. Donc, il y a des choses qui sont nécessaires pour quand même faire le partage des choses. Il y a deux façons de voir la vie sur le plan matériel. Il y a la vie sociale, la vie des masses. Ça, il faut respecter ça. Vous devez respecter vos parents, vous devez respecter les structures sociales. Ça, ça fait partie de notre monde, ça ne fait pas partie de votre expérience personnelle. Ensuite, il y a l'expérience personnelle. Ce sont deux mondes très différents. Moi, il est de mon devoir de respecter ma mère, de respecter sa façon de voir les choses. Elle n'est pas en évolution de conscience, elle est en expérience karmique. Mais moi, en tant qu'individu, ma raison d'être doit être définie par ma raison de vouloir, ma raison d'évoluer, ma raison de devenir. C'est plus le domaine de ma mère. Ma mère ne peut plus me dire, oh, ben, tu dois aller à l'église le dimanche, mon petit gars. Ben, tu vas me faire de peine. À un certain moment donné, ben, si je te fais de peine, là, c'est ton problème. Je vais essayer de t'en faire le moins possible. Mais tu ne peux pas m'amener à l'église le dimanche si ça ne fait plus partie de ma conscience d'y aller, ainsi de suite. Donc, si je ne suis pas capable de me libérer de la culpabilité par rapport à ma mère, là, je fais. Fait que ça va loin. Fait que c'est un grand défrichement, la conscience. Ça sera totalement différent de ce que vous pensez et tout ce que vous avez appris pendant l'évolution. Que ce soit en Orient, que ce soit dans les écoles ésotériques ou occultes de l'Occident, vous serez obligé de le faire. Parce que l'évolution d'une conscience mentale sur le plan matériel veut dire le mouvement de l'homme en dehors de la conscience évolutive de sa race. Ça veut dire que tout ce que nous avons appris par le passé sur le plan psychologique de l'ego, qui a servi à la construction des structures mentales, c'est-à-dire de nos façons de penser, donc de nos façons d'être, seront transmutées au cours de l'évolution. Et pas par l'homme. Il n'y a rien qui sera transformé par l'homme. Ça sera transformé par les plans dont l'homme aura conscience et en relation avec lequel il travaillera. Les hommes ne peuvent pas transformer les hommes. Les hommes peuvent créer, peuvent engendrer l'homme à leur image, mais les hommes ne peuvent pas transformer les hommes, mais les forces occultes peuvent le faire. Le plan mental peut le faire, l'ajusteur de pensée peut le faire, à partir du moment où l'homme est conscient des plans. Si l'homme n'est pas conscient des plans, à ce moment-là, ben, ce qu'il peut vivre, c'est une sorte d'intuition au niveau de l'âme, peut développer une certaine spiritualité au niveau de l'âme, mais il n'en arrivera pas éventuellement à développer une parfaite identité sur le plan matériel, et il n'en arrivera jamais sur le plan matériel à savoir. Il sera toujours à la quête d'un absolu. Il sera toujours à la quête d'une identité, ainsi de suite. Non. C'est là que vous faites des erreurs, puis vous passez vos temps à faire des erreurs, puis à faire des erreurs, parce que vous interprétez toujours le réel en fonction de votre ego. Il ne s'agit pas, vous autres, de lâcher vos couples, de lâcher vos jobs. Il s'agit pour vous autres, au contraire, de rester dans vos couples et voir jusqu'à quel point vous êtes capable de le faire. Vous allez voir que dans vos couples, vous avez bien moins de force d'unification que vous pensez. Autrement dit, que dans vos couples, vous êtes moins capable d'amour que vous vous imaginez. Et que vos couples sont bien plus des abris pour votre insécurité émotionnelle que des plans à l'intérieur desquels vous développez des forces. Parce que vivre en couple, ça prend beaucoup de force intérieure. Vivre avec une femme ou vivre avec un homme, ça prend beaucoup de force intérieure parce qu'on n'est pas des cadeaux, parce qu'on a des personnalités différentes, parce qu'on a des programmations différentes, parce qu'on a des signes astraux différents. Ça prend beaucoup d'amour pour vivre en couple. Et la raison aujourd'hui que les couples sautent, c'est parce qu'il n'y en a plus d'amour. Il n'y a même plus d'amour astral. L'amour mental, oubliez ça, on n'est même pas rendu là. Quand il y aura de l'amour mental entre les couples, entre les hommes et les femmes, les couples deviendront totalement indissociables sur le plan psychique. Vous pourrez vous dissocier sur le plan psychologique, mais sur le plan psychique, vous serez toujours en couple, vous serez toujours unifié en esprit, puis l'homme et la femme ensemble seront toujours des êtres très près. Même chose sur le plan du travail. Si vous n'êtes pas capable de travailler puis de rester dans l'atmosphère d'un patron, ben, à ce moment-là, ben, vous ne développez jamais de force intérieure parce que votre patron, il a un ego, une personnalité, il va vous mettre en vibration à cause de son inconscient. si vous tombez des pommes chaque fois que vous êtes en opposition, vous êtes fait, vous allez finir démendiant, vous allez finir sur bien-être social. Puis si vous êtes aidé par le gouvernement sur bien-être social, à ce moment-là, vous n'aurez jamais de plateforme pour vous lancer dans le monde, puis pour découvrir vos manifester vos propres ressources. Fait qu'il ne s'agit pas pour l'homme de faire de l'évasion comme l'hindou qui va se cacher en dessous d'un arbre. L'évasion, c'est une illusion. C'est comme les hippies qui ont voulu se cacher avec la drogue puis du pot. Tu fumes pas du pot pour arriver quelque part. Le pot, c'est du pot. C'est du pot. C'est ce que je te dis. Vous pouvez écouter tant que vous voulez, mais ça va pas vous donner de la conscience. Alors, qu'est-ce que vous voulez que vous dise? Ça veut dire, ce que vous faites, faites-le, puis apprenez à le faire de plus en plus consciemment, puis travailler en relation avec votre poste de plus en plus consciemment. Mais il va probablement venir un temps, dans votre évolution, où il va être temps de mettre le boss, votre patron de côté pour aller vers un autre qui est un petit peu plus intelligent, plus sensible. Ça va faire partie de vos besoins dans ce temps-là. Mais en attendant, c'est bon que vous travaillez avec votre boss parce que vous avez besoin de lui pour le moment pour vous enligner parce que vous avez des déformations au niveau de votre propre ego qui doivent être ajustées. Vous avez quelque chose à apprendre, ainsi de suite. Votre boss, il dit, bon, ben, arrive à 9h le matin, mais vous arrivez tout à 9h05. Vous dites, je suis pas capable d'arriver en retard, à temps. J'arrive tout à 9h05, à 9h05. Ben, c'est parce qu'il y a une force en vous qui vous force à arriver à 9h05. Vous n'avez pas cassé cette force-là, puis un jour, vous allez la casser. Vous allez arriver à 9h, parce que vous allez arriver à 9h05. Puis là, le boss va dire, wow, t'arrives à 9h05. Ah, m'a donné l'augmentation de salaire. C'est comme ça que ça marche. Le boss, il a entièrement raison de vous demander d'arriver à 9h. Ça, c'est votre responsabilité sociale. Sans ça, il n'y a plus d'équilibre. Puis, n'oubliez pas une chose, c'est pas parce que vous pensez que vous êtes conscient. Bye, 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 bye.